Delphine en a proposé, mais enfin, il y a encore au moins 40 minutes pour poser les questions. On laisse la parole là.
Merci. Est-ce que vous pouvez dire encore, donner quelques précisions? Ça va, vous m'entendez? Sur ce que vous avez évoqué à la fin, à savoir les très grandes superficies qui sont cédées à des puissances étrangères qui ne peuvent pas, enfin, chinoises ou Arabie Saoudite, qui cultivent des très grands domaines dans certaines parties d'Afrique. Peut-être pas dans les zones que vous avez évoquées, mais au Madagascar ou vers l'Est.
Simplement une question, est-ce que dans les défis, en plus du défi démographique, le climat, que le changement du climat fait partie des questions appréhendées et,
Donc, oui, on a parlé tout à l'heure que en Côte d'Ivoire, les petits producteurs arrivaient à nourrir les villes, mais on disait aussi que ça représentait que 50%. Hein? Alors, bon, il y a encore des progrès à faire. Ouais, j'ai peut-être mal compris.
Bonjour, par ici. Alors j'ai entendu parler de... Enfin j'ai entendu dans le documentaire Révolution verte, j'entends augmentation des rendements. Voilà, quel type de projet, quelle solution, vers quel type d'agriculture on va pour augmenter les rendements en Afrique. Et si vous avez quelques projets et quelques exemples à proposer, ce serait bien.
L'histoire des rendements a augmenté, gagner sur l'extension, c'est plus possible. Et, bon, et donc des intrants issus du pétrole, entre autres, et un paysan disait qu'il n'arrivait plus à payer. Voilà. Et donc, quel impact? Normalement, il faut plus d'intrants, et en fin de compte, ça va coûter de plus en plus cher. Et donc, ils vont être coincés financièrement, quoi. Et puis, alors, une éducation au sujet de la population. Alors, est-ce qu'il faut instaurer des caisses de retraite? Mais ils savent qu'ils sont coincés, mais ils continuent à faire, enfin, avoir une progéniture importante, quoi.
Accaparement des terres. Donc, vous avez une ONG spécialisée dont j'ai mis le site... dans la bibliographie, qui s'appelle ACTER, qui travaille sur l'accaparement des terres, qui fait des cartes, qui... Bon, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'accaparement des terres, c'est très difficile d'avoir des données exactes. Parce que, comme je l'ai dit, par exemple, sur le cas de l'Office du Niger, vous avez une opacité totale. Et il y a une très grande différence entre ce qui est annoncé, projeté, et puis ce qui est réalisé. Mettons, vous avez eu le cas de Madagascar, où c'est les Coréens du Sud qui ont acheté des terres, mais ça s'est su, il y a eu une campagne, et est-ce que c'est la cause ou est-ce qu'il y a bien d'autres causes? Le gouvernement est tombé. Bon, donc, ce qu'il y a, c'est que vous avez des pays... comme la Libye, comme l'Arabie Saoudite, etc. Vous avez les Indiens. Mettons, on a parlé un peu du cas de l'Éthiopie. La plus grande production de roses, c'est en Éthiopie. Et donc, avec un accord où le gouvernement dit la terre, c'est la terre de l'État, ça appartient à l'État, donc donne des concessions très importantes à des entrepreneurs indiens qui font des roses qu'ils exportent sur l'Europe. Bon, et puis, donc, vous avez les Chinois qui essayent aussi de s'implanter. Donc, c'est un problème très, très compliqué avec des chiffres qui sont fluctuants et qui sont critiquables. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné le site de ACTER, pour que vous puissiez éventuellement le consulter et leur poser des questions si vous le souhaitez. Le changement du climat, donc ce qui est important, c'est pas tellement que le climat va changer, que la pluviométrie globale va changer, par exemple, mais c'est que les aléas vont être de plus en plus importants. Et que l'autre élément, c'est l'élévation du niveau de l'eau des océans. Alors, si vous êtes sur la côte, si vous pensez à une ville comme Cotonou, vous voyez qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est juste au bord de la mer, qui vont être complètement submergés, qui vont être obligés de remonter, alors que d'habitude, il y a justement des migrations temporaires qui viennent du Niger, du Burkina, etc., qui vont vers la côte, et ça, ça sera de plus en plus difficile. Donc, le facteur essentiel, c'est surtout cette espèce d'augmentation des aléas, donc d'imprévisibilité et d'élévation du niveau de la mer qui risque de d'inonder un certain nombre de quartiers des villes côtières. Bon, après c'est la Côte d'Ivoire. Alors...
Oui, non mais bon, je suis d'accord hein, sur la très grande difficulté à savoir ce que sont les accaparements de terre, notamment à Madagascar où c'était donc Daewoo a été chassé en gros. Il y a maintenant des accaparements qui sont au niveau local avec les autorités locales sur des petites superficies. Et alors là, c'est très difficile à voir. Moi, l'exploitation là, de 3000 hectares d'EVA que j'ai vu près d'Abidjan, on l'a découvert comme ça. Le sous-préfet, quand on est allé voir, et le sous-préfet en Côte d'Ivoire s'occupe des affaires agricoles, savait vaguement, mais il n'était pas au courant, officiellement. Donc ça passait directement par le haut, par des trucs très, très compliqués. Bon, sur les petits... En gros, alors j'ai pas pu faire le calcul précis parce que la FAO donne les importations, les exportations, la conversion en calories, ça m'aurait pris 4 jours pour calculer, mais c'est plus... La Côte d'Ivoire produit plus de 2000... Sur ces 2800, elle en produit plus de 2000. Donc les importations, c'est autour de 700. Et il ne faut pas oublier que sur la disponibilité alimentaire, on ne compte pas tout ce qui est exporté. Et ce qui est exporté, c'est le café, cacao, l'huile, etc., c'est considérable. Donc en fait... Effectivement, les paysans n'arrivent pas à nourrir en totalité les villes, mais disons, ils arrivent à donner une bonne part de la... Ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent à donner une bonne part quand même de l'alimentation. Et ils ne le doivent pas à une politique qui est défavorable, mais plutôt à une adaptation de leur part aux conditions du marché, en innovant dans leur système de culture à eux, sans une véritable aide de l'État. Voilà. Et ils arrivent quand même à donner quelque chose qui n'est pas la totalité, mais qui est... 2100 peut-être calories, kilocalories par habitant par jour, ce qui fait que je ne sais pas, en France ça ne doit pas être mieux comme rapport. Voilà. Sur les il y a la question de la révolution verte. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quelle était la question exacte sur la révolution verte. Ce que peut-être un point qui me semble important, c'est que la révolution verte, quand elle a été lancée notamment en Inde et dans les autres pays, elle est fondée sur une agriculture irriguée, avec des semences sélectionnées de riz, de blé, qui fonctionnent bien s'il y a de l'irrigation. Or, l'agriculture africaine est une agriculture sous pluie, donc dans des conditions très différentes. Une grande partie de l'agriculture africaine, bon, il y a bien sûr les céréales, le riz, etc., mais une grande partie de l'agriculture africaine, c'est de l'igname, du manioc, de la banane plantain, sur laquelle les recherches sont très faibles et n'ont pas du tout été comparables à ce qui s'est fait sur le riz et le blé. Donc l'Afrique, en partie pour ces raisons, est passée un peu à côté de la révolution verte. Parce que les recherches variétales et les techniques qui vont avec n'ont pas suivi. Alors actuellement, il y a des variétés de riz pluvial qui viennent d'être mises au point. Nous avons la variété de riz Nerika par un grand centre de recherche au Nigeria. Nerika, ça veut dire New Rice for Africa, qui marche pas très bien pour le moment, mais on ne sait pas parce que c'est relativement récent. Donc il faut bien voir que les recherches en agronomie et en génétique, etc., n'ont pas été très favorables à ce qui est cultivé en Afrique, la façon de cultiver en Afrique. Après, pour la question des intrants issus du pétrole, oui, personnellement, j'ai pas de solution miracle. C'est-à-dire où on n'a pas de semences sélectionnées, on n'a pas d'intrants, etc., mais on reste avec des rendements très bas, où on met des intrants, effectivement, qui sont en partie à partir du pétrole. ça pose des problèmes, mais ça augmente les rendements. Mais je pense qu'il y a aussi quand même d'autres choses qu'il faut voir. Notamment, bon, en parlant de, dans les zones de climat tropicaux, c'est-à-dire à, pas la grande forêt équatoriale, mais ce qui est plus, plus au nord, on a développé la culture attelée. Et en développant la culture attelée, on récupère aussi les déjections des bovins qui servent d'engrais. Et ça, c'est quand même intéressant. On peut aussi avoir des associations, des successions culturales astucieuses qui permettent de régénérer ou de ne pas épuiser les sols en évitant de mettre des quantités trop importantes d'engrais. Il y a des formes de culture. Alors bien sûr, c'est manuel, c'est pas mécanisé, mais la parcelle que j'ai montrée en forêt, là, de culture vivrière, par exemple, où on a une multitude de cultures, avec en laissant des grands arbres, donc, on a donc des cultures qui donnent en réalité des... Chaque culture ne donne pas un très bon rendement, mais la parcelle, elle donne un très gros rendement parce que vous avez différentes plantes qui... C'est un peu une forme d'agroforesterie. Et maintenant, on commence à faire des recherches là-dessus. Et ça, ça a été très critiqué par les notamment au début du XXe siècle. Il faut voir comme les agronomes, quand ils allaient en Afrique, ils bombardaient de critiques ce genre d'agriculture. Et maintenant, c'est en train d'être revalorisé. Ça permet d'avoir des... Si vous voulez, il y a toute une panoplie de techniques qui n'ont pas encore été utilisées, qui sont souvent à prendre d'ailleurs dans l'agriculture paysanne. Mais ça ne veut pas dire pour autant, là, je ne sais pas, qu'il faut éliminer les intrants. L'agriculteur qu'on avait la semaine passée nous disait que en diminuant les engrais, il diminue, et ses rendements stagnent ou diminuent. Donc moi j'ai pas de solution là-dessus. Mais il y a toute une série. Le modèle, c'est pas forcément l'agriculture. Entre l'agriculture productiviste et une agriculture sans engrais, sans rien, il y a peut-être des choses, des solutions intermédiaires, et notamment dans certaines... Bon, la culture attelée dans certaines zones d'Afrique, l'agroforesterie, qui peuvent donner des bons résultats, d'améliorer les rendements sans pour autant mettre en danger l'environnement. Et il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus difficile de passer de 8 tonnes à 9 tonnes à l'hectare en Europe pour les céréales que de 1 tonne à 2 tonnes en Afrique. Et si on passe de 1 tonne à 2 tonnes en Afrique, on est loin des 8 ou 9 tonnes ici, mais on double la production. Il ne faut pas oublier ça.
Alors, je complète. Sur les questions techniques, dans la prochaine séance, vous aurez... Marc Dufumier, donc, qui est un grand spécialiste de l'agrobiologie, et notamment, vous pouvez lui poser des questions très, très précises là-dessus. Mais lui, il est partisan, avec plein d'exemples, sur les rapports entre l'agriculture et l'élevage, et notamment le rôle du fumier, et avec, par exemple, des techniques qui sont très simples, c'est des accords entre les éleveurs et les agriculteurs, avec des parcs à bestiaux, qui sont itinérants et qui permettent de fumer les sols. Bon, vous avez des rapports avec aussi les arbres qui peuvent jouer un rôle très important, notamment l'acacia albida, qui a des cycles inversés qui permet de faire remonter la partie nutritive des sols. Donc, je ne vais pas en parler parce que je risque de dire des bêtises, mais en gros... vous avez un des meilleurs spécialistes samedi prochain. Bon, ce que je peux dire aussi, pour compléter ce que dit Jean-Louis, c'est que les rapports entre les agriculteurs et les agronomes ont beaucoup changé. C'est vrai qu'au début des années 60, vous aviez un grand mépris et une grande méconnaissance des agronomes venus d'Europe par rapport à l'agriculture familiale. Et donc, ils en disaient pique-pendre, alors que maintenant, on découvre que les cultures associées, donc sur la même parcelle d'avoir plusieurs cultures, les rotations, les semences qui sont sélectionnées par les paysans et qui s'adaptent à des tas de situations, et notamment des situations d'aridité, sont tout à fait performantes. Voilà. On n'a pas répondu sur l'éducation. L'éducation sur la contraception.
Oui. Merci. Là, dans le diaporama, mais on le sait aussi par ailleurs, on voit que le travail des femmes est très important. Est-ce que vous avez des statistiques sur le sujet ? Est-ce que ça évolue dans le temps, etc. Puis on voit également dans le diaporama un enfant travailler dans les rizières. Où en est le travail des enfants, la législation en la matière, quoi, parce qu'on sait que ça évolue dans certains pays. C'est quand même, y a quand même une législation qui protège le travail des enfants, enfin qui empêche le travail des enfants. Qu'est-ce qu'il en est en Afrique, d'une manière générale, ou dans certains pays ?
J'aurais deux types de questions. L'une montre que pour les taux de croissance, c'est très inégal suivant les régions d'Afrique en particulier. Il y a des régions où il y a une mortalité énorme. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça ? Et puis alors, de façon, une autre question tout à fait différente. Dans la présentation que vous avez faite, on n'a pas très bien, on comprend pas très bien où est le pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir du pays joue vraiment un grand rôle ? Les ONG, les lobbies, les semenciers, les exportateurs, etc., etc. Donc le pouvoir, on n'a pas vu où il était.
Juste, j'aurais posé une question globale, en fait, c'est-à-dire par rapport à ce que les Africains globalement produisent, est-ce qu'ils importent, est-ce qu'ils arrivent à produire, pour toutes, si on prend toute l'Afrique, autant que ce qu'ils mangent, en quelque sorte, ou moins, plus, je ne sais pas.
Je
n'ai
pas compris la question, vous pouvez répéter ça.
La question, c'est est-ce que les Africains produisent assez pour eux-mêmes, quoi, globalement, quoi, au niveau de la production agricole, quoi.
Alors, le travail des femmes et des enfants, oui, il y a toujours des législations, mais la réalité, c'est que les femmes et les enfants jouent un rôle considérable. Et quelquefois, c'est à des moments très particuliers. Mettons, sur le fil du Niger, vous avez des oiseaux qui viennent très souvent manger les récoltes avant qu'elles soient récoltées. Et donc, les enfants font du bruit, simplement, pour chasser les oiseaux. Bon, c'est pas un travail considérable, mais c'est un travail qui est très utile et très, très indispensable. Bon, l'exemple, là, sur le DVD... Les femmes jouent effectivement un rôle très important. Elles ont toujours joué un rôle très important, notamment sur les cultures vivrières. Et là, quand il y a une amélioration des techniques, notamment avec le repiquage, qui permet d'augmenter beaucoup les rendements, c'est vrai que c'est elles qui sont avant tout dans la boue, quoi, et qui ont le travail le plus fatigant. Mais avec le maraîchage, dans le cadre de l'Office du Niger, elles ont des revenus aussi qui deviennent très, très importants. Donc, bon, la législation, elle existe, mais elle n'est pas véritablement observée parce que les gens n'en voient pas la nécessité. Et il faut voir que la période de culture, c'est en gros de juin à septembre-octobre pour les zones sahéliennes. Et donc, c'est la période des grandes vacances. Donc, que les enfants fassent des petits travaux dans les champs ou participent à la collecte du coton, à mon avis, c'est pas dramatique. Bon, ça c'est pour. Alors, les taux de croissance, ils sont très différents. Enfin, ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à tous les autres pays, l'Afrique n'a pas véritablement commencé, sauf cas particulier, la transition démographique. Et donc, c'est selon le niveau de transition démographique qu'on a ce qui explique la plus grande partie des différences de croissance démographique. Et aussi le niveau de qualité sanitaire. Donc, le problème, c'est la mortalité infantile, la mortalité des femmes au moment de l'accouchement, etc. Donc, dans les pays, ce problème est à peu près réglé, et dans d'autres, pratiquement pas. Sur le pouvoir, eh bien, il y a les États, théoriquement, qui ont le pouvoir, mais en fait, c'est des passoires, et les frontières sont très, très poreuses, et donc, il y a plein d'échanges frontaliers qui se font entre le Sahel et la côte, ou de région en région. Les lobbies sont importants sur, quelques cultures, notamment sur, sur le riz. Vous avez dans chaque pays un oligopole de 4 ou 5 grands importateurs, proches du pouvoir, proches de l'État, quelquefois proches de la famille même du chef de l'État, qui essayent de tout faire pour que les importations soient libres. Et donc qui s'opposent à tout droit temporaire, variable, etc., selon la différence. Les exportateurs, c'est aussi sur certaines cultures. Enfin, donc, c'est vrai que l'EVA, le café, le cacao, là, il y a des groupes qui sont bien organisés. Bon, les paysans sont toujours en position minoritaire, mais ce qu'il y a de plus important depuis ces 20 dernières années, c'est le développement des organisations paysannes et des syndicats paysans. Et donc, là, ils arrivent à faire des manifestations jusque dans la capitale pour se faire entendre. Et donc, les rapports de force sont en train de changer. Et les Africains peuvent-ils se nourrir? Bon, vous avez des politiques qui sont régionales. Mettons sur l'Afrique de l'Ouest, qui correspond à 16 pays, à la fois des anglophones et des francophones, une politique commune avec des efforts pour avoir un tarif extérieur commun pour protéger un certain nombre de cultures. Mais ces protections sont officielles, sont très, très faibles, de l'ordre de 5 à 10%, et donc ne suffisent pas véritablement. Donc on a une superposition entre des politiques nationales qui sont l'objet d'un compromis. Vous avez les politiques régionales et vous avez les politiques nationales avec le NEPAD, notamment, qui couvre l'ensemble de l'Afrique, et l'OUA, qui essaye d'avoir des politiques agricoles un peu complémentaires. Là-dessus, il y a une tellement grande différence entre les textes, qui sont souvent très bons, qui disent qu'il faut que dans chaque budget national, il doit y avoir 10% au moins qui sont réservés au budget pour l'agriculture. Et puis, il y a les réalités que c'est un peu difficile de répondre. Mais globalement, oui, l'Afrique pourrait se nourrir. Parce que, comme le dit Jean-Louis, on peut assez facilement doubler les rendements. Et donc, pendant un certain temps, on sera en paix.
Oui, j'ai juste quelques points. Sur le travail des femmes, il se trouve que j'ai étudié la question de l'activité des femmes en milieu rural, en Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant longtemps, les cultures d'exportation qui rapportaient de l'argent étaient faites par les hommes. Ou en tout cas, c'est eux qui touchaient l'argent. Et les femmes s'occupaient du secteur vivrier. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que comme maintenant, vous avez une partie des cultures vivrières qui sont vendues en ville, souvent ce sont les femmes qui ont pris en charge ce secteur. Donc c'est pourquoi elles produisent des cultures vivrières. Elles font de l'artisanat alimentaire, comme la femme que j'ai montrée, et il y en a beaucoup qui deviennent commerçantes. Et donc ça crée des évolutions. Par exemple, j'ai vu dans des villages au début des années 90, où les prix des cultures d'exportation étaient très bas, mais on retrouve la même chose au début des années 2000, quand les prix d'exportation sont très bas, les femmes gagnent plus que leurs maris à ce moment-là. Ce qui est une situation nouvelle. Donc comme c'est nouveau, il ne se passe rien. Mais à terme, si ça devait perdurer, ça changerait bien sûr totalement les relations entre les hommes et les femmes, parce que la femme deviendrait un élément important. Et d'ailleurs, grâce à ces ventes, de plus en plus, les femmes prennent en charge les frais de scolarisation des enfants. Des choses comme ça. Alors, c'est pas toute l'Afrique, c'est pas partout, mais on voit ces évolutions dans certains secteurs qui sont importants. Bon, pour les enfants, je suis d'accord, on peut faire des lois. De toute façon, les gens ne les respectent pas et il n'y a personne pour les contrôler. Donc les enfants continuent à travailler. Sauf que lorsque les paysans commencent à avoir de l'argent, ils envoient leurs enfants à l'école. Et quand ils envoient leurs enfants à l'école, du coup, les enfants travaillent moins au champ, ne serait-ce que parce que l'école primaire est au village mais le collège est à la petite ville d'à côté, où on les envoie même dans la grande ville. Donc du coup, c'est plus par ce genre d'évolution qu'on va avoir une baisse du travail des enfants que par les contrôles de l'État. Les États sont comme des États faibles, en fait. Et donc, ils ont du mal à contrôler, à faire respecter les lois. Du coup, ça m'amène sur où est le pouvoir. Ben, je ne sais pas, moi j'en ai parlé à propos de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est-à-dire qu'il y a un discours, mais les mesures qui sont prises ne vont pas du tout dans le sens de l'agriculture. Et ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des grandes sociétés qui s'installent, ben, des fois, elles passent directement par des relations clientélistes avec des ministres, et le pouvoir, la structure qui serait chargée de contrôler ça, elle l'ignore. Voilà. Et je pense que l'exemple des importations de riz, c'est exemplaire. Sur la mortalité, bon, il faut tenir compte dans quelques pays, pas dans tous, vous avez du sida, et donc ça a considérablement augmenté momentanément la mortalité. Ce qu'il y a aussi, ce qui est très important, c'est plus que les taux de mortalité, ce sont les taux de mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui meurent la première année à la naissance et la première année. Et c'est là où on voit des écarts absolument gigantesques. Et en ce qui concerne les taux de mortalité infantile, dans les pays développés, c'est autour de 4 à 5 pour 1000 de taux. En France, par exemple, c'est 4 pour 1000, c'est-à-dire qu'il y a 4 enfants qui meurent sur 1000 naissances dans l'année. Aux États-Unis, c'est 8, je crois, pour 1000, parce que le système de santé est moins bon qu'en France. Et au Tchad, au Niger, c'est plus de 100 pour 1000. Donc ce qui veut dire que ce qui est fondamental, c'est largement la première année. Et ça, c'est lié à des conditions sanitaires locales, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des puits, où on prend l'eau du marigot ou l'eau de pluie et une eau potable, est-ce qu'il y a des médicaments, notamment pour éviter des maladies immédiatement. Par exemple, le fait qu'on ait des sérums antitétaniques, on fait considérablement chuter la mortalité natale et postnatale. Après, il y a d'autres choses qui ne tiennent pas à l'alimentation, mais qui tiennent au comportement des populations. Notamment, au moment du sevrage, il y a une mortalité très forte parce qu'on passe du lait maternel à des choses du type de l'igname, du riz, enfin, sans transition. Et moi, quand je vivais dans les villages, c'était vraiment quelque chose qui m'avait frappé. C'est le nombre d'enfants comme ça qui mouraient. Notamment à ce moment-là. Alors, ça, c'est moins une question de quantité de nourriture que de changement. Alors, est-ce que les Africains, globalement, produisent assez ? Ben, là, on est en train de reprendre un peu le danger que je voulais dénoncer en introduction, c'est-à-dire de considérer l'Afrique comme un tout. L'Afrique n'est pas un tout homogène. Et il y a des pays qui sont presque autosuffisants. Enfin, il y a des pays qui franchement n'ont pas de problème alimentaire. Enfin, pas de problème alimentaire. S'il y a des problèmes alimentaires, mais qui se nourrissent. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est pas un problème. La Côte d'Ivoire est un pays qui ne se nourrit pas totalement, mais si on regarde compte tenu des exportations, elle doit produire l'équivalent, je ne sais pas, de 3500 ou 4000 kilocalories par habitant. Hein, si on... Donc, potentiellement, vous avez des pays qui ont aucun qui devraient avoir aucun problème. Et puis, vous avez quand même des pays qui sont dans des conditions naturelles très, très difficiles. Dans les pays du Sahel, où vous avez une longue saison sèche, peu de pluie et des difficultés d'irrigation, ben là, vous avez des problèmes. Alors, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte aussi d'un deuxième élément, c'est que de plus en plus, les gens consomment du riz. C'est la première phase de la transition alimentaire, on tend à augmenter la consommation de céréales. Et donc il y a des pays qui sont plus doués pour d'autres productions peut-être que les céréales. Voilà, donc je pense que c'est difficile de généraliser. Voilà. Mais il y a des pays, je pense la Côte d'Ivoire, mais le Ghana, le Cameroun sont des pays qui peuvent assez facilement se nourrir. Sur la mortalité. Il y a toute une série de pays où les conditions sont telles que c'est peut-être pas le problème principal. Je voulais revenir une seconde sur les questions de mortalité.
Oui, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai une question très triviale. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'AMAP, on parle beaucoup de l'idée de d'acheter nos aliments en local. Et ma question, c'est, est-ce que c'est bien pour l'Afrique? Est-ce que si, par exemple, tous les Parisiens ou tous les Français adoptaient cette politique, est-ce que ça aurait des conséquences importantes, bénéfiques ou maléfiques sur l'Afrique? Pour être encore un peu plus spécifique, est-ce que c'est bien d'acheter des haricots du Kenya en hiver ou pas? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Deuxième point, on parle beaucoup d'augmentation de rendement. J'imagine que derrière ça, on a parlé aussi tout à l'heure de révolution verte. On a dit que la révolution verte avait finalement assez peu concerné l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la prochaine révolution verte concerne l'Afrique et quel pourrait être le rôle notamment de l'Europe, par exemple, dans ce domaine-là? Ou est-ce que l'Afrique elle-même dispose des moyens intellectuels ou de formation qui lui permettent de régler cette question-là?
Moi, c'est ma question, elle reprend exactement la précédente, c'est votre vision globale, ou enfin régionale, puisque elle est plutôt optimiste ou pessimiste, j'ai pas très bien senti. Alors est-ce que vraiment, puisque malgré tout on sait que la population d'Afrique, même s'il y a une transition démocratique, elle va doubler assez rapidement, la population de l'Afrique en 20 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que vraiment c'est possible de nourrir cette population, ou est-ce qu'elle va aller dans les villes, mais là, rien trouver, donc partir peut-être de l'Afrique encore plus? Voilà, donc je suis pas sûr de votre réponse. Vous n'en avez peut-être pas.
Oui, bonjour, merci pour... Oui. Alors, moi, je viens du Sénégal, en fait. Donc, je sais qu'il y a un problème d'agriculture à cause du climat. Mais je voudrais répondre un peu au monsieur, dans le sens que si les AMAP se développent au niveau de l'Europe... je pense que ce serait bénéfique pour l'Afrique, dans le sens qu'il n'y aura plus de contrats qui seront signés entre le gouvernement et des investisseurs étrangers, occidentaux, qui viennent prendre les terres en Afrique. Et aussi répondre au monsieur qui disait, je vais compléter la réponse, dans le sens que l'Afrique peut nourrir sa population, même si elle double. Parce qu'il y a des régions, même si les populations sont très très hétérogènes, les cultures ne sont pas les mêmes, je pense que rien que l'Afrique de l'Ouest, la Casamance au Sénégal ou la Guinée-Conakry peut nourrir toute l'Afrique si la population s'y mettait et s'il y avait les techniques nécessaires pour vraiment développer une agriculture intensive. Et on parle d'exportation. Pourquoi pas, on parle pas déjà d'exportation en Afrique, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges commerciaux entre les Africains en tant que tels, au lieu d'exporter ailleurs. C'est surtout ça le problème de l'Afrique. C'est-à-dire que la Corne de l'Afrique, par exemple, il y avait la faim extrême, je ne sais plus c'était quelle année encore, mais si par exemple la Casamance ou Guinée-Conakry ou bien, je ne sais pas, Éthiopie ou autre, l'État en tant que tel prenait en charge cette problématique, je pense qu'on ne serait pas derrière Action contre la faim pour nous venir en aide. Donc je pense que c'est un problème de travail entre les gouvernementaux qui est un manque à gagner. Merci.
Bon, sur les AMAP, je pense que le développement de... Enfin, actuellement, les AMAP, c'est une toute petite partie du ravitaillement dans un pays comme la France. Hein.
Donc je pense qu'on en est loin en Afrique. Je pense que l'Afrique a quand même actuellement, mais c'est dans les pays que je connais, mais il se trouve que j'ai commencé mes recherches il y a très très longtemps au Sénégal, c'était à la fin des années 60, donc, mais surtout je vois en Côte d'Ivoire, l'immigration dans les villes est encore relativement récente, sauf peut-être, encore le Sénégal, il y a des gens qui sont deuxième, troisième génération, mais vous avez beaucoup de gens qui sont des migrants relativement récents, donc qui n'ont pas rompu avec leur village. Ce qui fait ce qu'on voit, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans les pays que je connais, au Cameroun, dans beaucoup de pays, vous avez les gens qui vont fréquemment au village. Et quand ils vont au village, il y a des échanges nombreux. Il y a de très nombreuses études qui ont été faites et qui montrent qu'il y a des échanges nombreux, alors très, très variables selon les cas, mais souvent, là où les villages produisent beaucoup de vivres, les gens de la ville arrivent avec des produits de la ville, et souvent ils arrivent chez eux, dans la famille, et ils repartent avec des vivres. Et c'est pas du tout négligeable. Alors ça vaut pour les gens qui habitent à 100-200 km, ça ne vaut pas pour les gens qui habitent à 500 km. Maintenant, dans d'autres coins, c'est l'inverse. On s'est aperçu que c'était plutôt les villes qui nourrissaient les campagnes, c'est-à-dire que quand vous avez des épisodes de problèmes alimentaires, notamment dans certains pays du Sahel, c'est les citadins qui amènent du riz importé dans les campagnes. Donc simplement pour dire que les AMAP peut-être, mais qu'il y a des formes d'associations, de relations ville-campagne qui existent dans les villes africaines, dont il faudrait tenir compte, et notamment qui peuvent être basées sur des associations d'originaires, qui sont souvent importantes, sur des relations familiales, etc., qui sont extrêmement, extrêmement denses. Alors, est-ce bien d'acheter les haricots verts du Kenya? Je suis désolé, je vais sans doute faire de la peine encore à Jean-Louis, je ne vais pas répondre de façon nette, claire. Non, mais ça embraye sur ton autre question. C'est-à-dire que sur un plan théorique, comme ça, je dirais en l'air, oui, c'est beaucoup mieux que les Africains nourrissent d'abord leur ville plutôt d'exporter. Sauf que quand vous vendez à l'étranger, vous vendez à un prix beaucoup plus rémunérateur que dans le pays, parce que le niveau de vie des Européens est beaucoup plus élevé, ils achètent beaucoup plus cher que dans le pays. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Et je vais prendre un exemple très précis pour montrer les contradictions dans lesquelles on se trouve. Il y a un film que certains ont peut-être vu qui s'appelle « Le cauchemar de Darwin ». Épouvantable, bon. Et c'est vrai ce qu'il dit. Et la pêche notamment au poisson, la perche du Nil, c'est épouvantable. En plus, les pêcheurs sont hyper exploités. Résultat, à la suite de ce film, vous avez eu des mouvements en Europe et notamment en France de boycott de la perche du Nil. Résultat, les pêcheurs qui étaient hyper exploités, ils n'ont plus été exploités parce qu'ils ne vendaient plus rien, ils ont crevé de faim. Donc, les choses sont compliquées, c'est pas si simple. Voilà ce que je veux dire là-dessus. Alors, sur la révolution.
Les haricots verts, excusez-moi, sont transportés quand même par avion, ce qui fait pas mal de CO2.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas seulement les haricots verts, c'est. Il y a des tas de produits qu'on consomme ici, les bananes, les mangues. Effectivement, c'est un problème. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que c'est pas si simple. Si on dit, on peut très bien dire, on mange plus tout ça. Mais en mangeant plus tout ça, on sait aussi que les gens qui en tirent un revenu n'en tireront pas plus de revenus. Voilà. Donc changer brutalement les choses, ce que je veux dire, c'est pas simple. On peut toujours prendre. Comment ?
Brutalement, je sais pas, mais oui. C'est quand même urgent.
Mais de toute façon, on y arrivera. Bon, ne serait-ce que parce qu'à terme, le pétrole va augmenter. Alors, je me souviens plus... plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Moi, je suis ni optimiste, ni réaliste. Ni optimiste, ni pessimiste, mais plutôt réaliste. Personnellement, je pense que l'Afrique va s'en sortir, donc je serais plutôt optimiste. Mais je sais, ça relève d'arguments en partie rationnels, mais pas tous non plus, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 10-15 ans. Et on maîtrise mal les évolutions démographiques, et on maîtrise mal non plus même les évolutions de l'agriculture compte tenu des changements climatiques qui se manifestent, donc, comme le disait Dominique, par des très grandes irrégularités. Alors, sur ces grandes irrégularités, on s'aperçoit quand même que les paysans, y compris ceux du Sahel, s'adaptent. Ils adaptent, par exemple, des variétés à cycle court. On a vu qu'il y avait un raccourcissement de la saison des pluies, et bien eux-mêmes sélectionnent des variétés à cycle court qui leur permettent de s'adapter.
Donc, on peut penser que toutes ces adaptations qui sont faites, très souvent, je le répète, sans aucune aide des autorités, avec peu de choses, permettraient à l'Afrique de s'en sortir. En ce sens, je serais plutôt optimiste, mais ce n'est pas absolu. Quant au mouvement vers la population vers les villes, et puis après des villes vers les pays européens, oui, sauf que c'est plus compliqué. Par exemple, quand il y a eu, dans les années 80, en Côte d'Ivoire, une grave crise dans les villes, on a vu les gens qui quittaient la ville, qui retournaient dans leur village. Et on voit très souvent, actuellement encore en Afrique, des mouvements de va-et-vient compliqués entre la ville, le village, des retours. Et ce qui se développe aujourd'hui en Afrique le plus, ce n'est pas les très grandes villes, contrairement à ce qu'on croit, ce sont les petites villes. Et pourquoi ? Parce que justement, dans les petites villes, l'alimentation est beaucoup moins chère, le logement est beaucoup moins cher, mais on a quand même un certain nombre de services, c'est-à-dire qu'on a un dispensaire, une maternité, des magasins, des bars, des discothèques, etc. Et on n'a pas la violence non plus qu'il y a dans les grandes villes. Voilà, je ne sais pas si... Ben, je te laisse compléter.
Ah, pardon, moi j'ai envie... Si j'allume mon...
Voilà, j'ai envie de proposer le dialogue avec la jeune dame du Sénégal qui posait cette question, qui avançait cette hypothèse que le continent africain dans son ensemble devrait organiser ses échanges intra-africains. Et ce que j'ai tout de suite pensé lorsque elle a parlé, c'est qu'il y a un problème majeur. C'est les infrastructures de communication dans ce continent. Comment faire transiter hors avion, hors convoi de camion, des denrées à stocker comment l'ouest vers les zones de l'est plus défavorisées ou inversement. Voilà. Moi, ça me questionnait votre envie que le continent africain trouve sa solution dans un cercle fermé qui ne serait que l'Afrique, quoi. Mais en même temps, je vous fais part de ma réaction et de mon interrogation. Avez-vous des exemples d'échanges fructueux?
Oui, sur les organisations régionales et l'idée d'avoir un commerce régional qui a un gros avantage, c'est que ça éviterait la concurrence entre les agricultures du Nord et du Sud. Mazoyer en avait déjà parlé un peu. Je pense que la semaine prochaine, Dufumier va très certainement en reparler. L'idée de la FAO actuellement, c'est plutôt que d'avoir comme à l'OMC un commerce international qui met des exploitations hyper performantes en concurrence avec des petites exploitations, c'est d'avoir plutôt des vastes zones macro-régionales, on va dire, d'échanges qui éviteraient justement ces concurrences inégales. Donc dans cette perspective, il y aurait sans doute quelque chose qui serait, alors peut-être pas au niveau de l'Afrique, je ne sais pas, mais plutôt de l'Afrique occidentale et centrale d'une part et d'autre part, orientale et méridionale. Donc ça, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Ce n'est pas simple à cause des voies de communication. Je ne suis pas sûr que ça soit le principal parce que l'Afrique développe ses voies de communication actuellement à grande vitesse. Mais il y a des intérêts aussi politiques des États qu'il ne faut pas sous-estimer. Et là, on peut dire que effectivement, les pays africains auraient peut-être intérêt à s'entendre, mais que jusqu'à présent, ça a été très difficile. Ça se passe pas toujours très bien. Et moi, j'ai quand même le souvenir... je vais pas prendre le Sénégal, je vais prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en 1987, décide le boycott de cacao. Ça décide de ne pas vendre son cacao parce que les prix sont tellement bas. Il décide un embargo sur le cacao pour faire augmenter les prix. Le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, qui sont des gros producteurs africains, auraient pu suivre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas suivi la Côte d'Ivoire. Ils ont profité de l'embargo ivoirien pour prendre sa place sur le marché mondial et de casser l'embargo ivoirien. Et donc, c'est sans doute, c'est une voie qui me semble effectivement une voie importante d'avenir, sur laquelle d'ailleurs même la FAO réfléchit de ce point de vue, c'est important, mais c'est pas facile à mettre en œuvre parce que vous avez pas forcément des intérêts immédiats qui sont convergents, il faut arriver à dépasser ça, donc c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, on peut pas les faire du jour au lendemain, me semble-t-il. Et je ne crois pas que ça soit tellement les voies de communication. Actuellement, ça se développe très, très rapidement, les voies de communication.
Voilà. Donc, merci beaucoup à nos intervenants.
Et pour ceux qui souhaiteraient la conclusion, à la semaine prochaine.
Voilà.